mesdames et messieurs. Bonjour, vous excuserez tout d'abord ma voix, je fête toujours l'arrivée prochaine de l'hiver par une angine, c'est une tradition. Voilà, donc j'espère que vous m'entendrez bien, enfin suffisamment. Donc en effet, j'ai l'honneur d'intervenir dans cette enceinte prestigieuse où il y a déjà un paquet d'années, en tant qu'étudiant à la Sorbonne, je venais écouter les grands cours, quelques grands cours en tout cas qui pouvaient se donner dans cette enceinte. Au nom donc du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, je vais essayer de vous parler de la manière la plus synthétique et la plus concise possible de la démarche de la sécurité civile en matière de sécurité liée aux batteries des véhicules électriques. Je voudrais notamment remercier pour m'avoir permis de parler dans cette enceinte au nom du directeur général, messieurs Tarascon et Chabre. Alors, un bref rappel du contexte. Le gouvernement a présenté le 1er octobre 2009 son plan pour le développement des véhicules électriques et hybrides rechargeables. L'objectif est de voir circuler d'ici 2020 2 millions de véhicules de ce type. Alors concrètement, le plan se déploiera dans les différents domaines du véhicule électrique, que ce soit les batteries, les infrastructures de recharge, l'industrialisation, la recherche, etc. Donc l'ensemble des projets portés par les fabricants de véhicules fait l'objet de nombreuses réflexions dans un contexte évidemment sensible, d'une part du fait de la protection, bien entendu, de la propriété intellectuelle découlant des innovations à venir, et d'autre part en raison des engagements pris au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire président de la République et Premier ministre, quant au soutien à ces technologies dites propres. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Écologie et le ministère de l'Intérieur ont mis sur pied plusieurs groupes de travail qui se sont concrétisés, notamment par des grandes réunions comme celle qui a été organisée le 16 juin dernier, présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'Écologie, avec la participation des grandes directions concernées. Donc, parmi les thématiques identifiées qui nécessitent un dialogue avec les fabricants et les équipementiers, il convient de citer de manière non exhaustive d'abord les dégagements de gaz toxiques ou explosifs en cas d'incendie. Le cas particulier donc, qui nous intéresse tout particulièrement à la sécurité civile, des milieux confinés, notamment les tunnels ou les parcs de stationnement. Risque d'explosion, risque toxique, risque de propagation. Également les risques électriques. Les risques électriques en cas d'intervention des sapeurs-pompiers, en cas d'accident du véhicule. Nous sommes également intéressés par tout ce qui concerne les implantations des stations de charge dans les lieux publics, évidemment, parcs souterrains, stations-service qui délivrent déjà des carburants, et puis également les risques liés au stockage en grande quantité, puisqu'il faudra bien stocker ces batteries, neuves ou usagées, ce qui peut poser des questions quant au statut des établissements qui les recevront, peut-être des installations classées pour la protection de l'environnement, on ne sait jamais, et puis également les risques associés au transport de ces batteries en grande quantité. Alors, les problématiques toutes spécifiques pour la Direction générale de la sécurité civile sont les suivantes. Il faut étudier les risques associés à ces batteries qui sont intégrées dans les véhicules sous deux angles. D'abord, nous les étudions en ce qui concerne les risques, évidemment, pour les personnes. La Direction générale de la sécurité civile est avant tout chargée de la protection des populations, et puis bien entendu les risques pour les intervenants de secours, puisqu'il ne sert à rien de protéger la population si on ne protège pas, évidemment, les intervenants, si jamais ils étaient les premiers touchés. C'est la raison pour laquelle, début 2011, deux groupes de travail ont été mis en place au sein de la Direction générale de la sécurité civile. Le premier, qui est donc piloté par mon bureau, qui est celui du bureau d'expertise des risques majeurs, il a pour objectif d'identifier les risques associés aux véhicules en cas d'incendie. Nous nous sommes particulièrement intéressés au cas le plus pénalisant, c'est-à-dire un incendie au milieu confiné, donc tunnel et plus encore parking souterrain, puisque évidemment la toxicité des fumées aura bien entendu un impact plus important qu'en milieu ouvert. Le second groupe, qui est piloté par un autre bureau, intégré à la direction des sapeurs-pompiers, s'intéresse à la sécurité des intervenants du secours dans différentes situations opérationnelles, que ce soit un accident de la route, donc pour du secours à personne, ou un incendie. Alors, le groupe qui est piloté par le bureau des risques majeurs s'est surtout attaché donc, à faire le lien entre les problématiques identifiées par le ministère de l'Écologie, et particulièrement par une étude conjointe INERIS-UTAC, qui date de 2010, puisque c'est de là que tout est parti, ce lien également avec les besoins associés à la sécurité des personnes et des intervenants du secours. Eu égard aux premières conclusions des études du ministère de l'Écologie, qui mettaient en évidence une toxicité des fumées d'incendie de batterie et également leur impact en milieu confiné, le groupe a souhaité mettre en place un protocole d'essai incendie. Alors, l'avantage de définir un protocole était le suivant. Au sein de ce groupe de travail d'abord a commencé en réunissant bien entendu les services administratifs concernés, les services ministériels, donc Direction générale de la protection des risques et Direction générale de l'énergie et du climat du ministère de l'Écologie, Direction générale de la sécurité civile, trois constructeurs de véhicules électriques, Renault, PSA et Bolloré, également l'UTAC, l'INERIS. Donc, nous avons commencé en petit comité. La dernière réunion a vu s'est élargie à peu près 40 personnes, c'est dire si la problématique de la sécurité des batteries de véhicules électriques intéresse beaucoup de monde, ne serait-ce que, par exemple, tout ce qui concerne évidemment les intervenants du secours et à Paris, au premier chef, la brigade des sapeurs-pompiers. Le principe a été de proposer un cahier des charges expérimental pour avoir un protocole expérimental scientifique, puisque l'un des problèmes identifiés à partir de l'étude de l'INERIS, l'INERIS d'ailleurs ne s'en étant jamais caché, est qu'il s'agissait avant tout d'un dépouillement de la littérature scientifique existante sur la réaction au feu des batteries de véhicules incendies et des véhicules eux-mêmes. Bon. Le principe était non pas évidemment, d'obtenir toutes les garanties ou toutes les preuves ou toutes les démonstrations possibles, le principe vu de la Direction générale de la sécurité civile est bien entendu de restreindre les hypothèses et essayer d'obtenir, sinon toutes les certitudes, en tout cas certaines quasi-certitudes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à la clé de ce protocole expérimental et de l'étude réalisée par les services de l'État sur la dangerosité potentielle des véhicules électriques, il y a, bien entendu, une possibilité de modification de la réglementation en cause et, j'oserais même dire, de diverses réglementations. Puisque, prenons simplement le cas, sortons simplement de la réglementation concernant les véhicules, en ce qui concerne le parking souterrain, il serait peut-être nécessaire, c'est ce qui avait été identifié par les services, notamment du ministère de l'Écologie, de modifier la réglementation relative aux ERP, c'est-à-dire aux établissements recevant du public, ou plus spécifiquement aux parkings confinés. Voilà. Donc, il y a un véritable enjeu d'administration au sens de production de législation dure, comme on dit, de droit dur, c'est-à-dire globalement décrets et arrêtés. Alors, nous n'en sommes pas là, mais le principe, bien entendu, qui nous a guidés, a été d'essayer, je le répète, de restreindre au maximum le champ des hypothèses qui, jusque-là, n'étaient tirées que de littérature scientifique pour essayer de se fonder sur une véritable analyse expérimentale. Donc, le protocole, que nous appelons aussi cahier des charges, a été rédigé en commun. Et il a été approuvé à l'unanimité, c'est-à-dire avec non seulement les constructeurs, les organismes spécialisés, les instituts d'études, les bureaux d'études et les services ministériels. Il visait plusieurs objectifs. Premièrement, il était destiné à vérifier le comportement général d'une batterie et d'un véhicule électrique en cas d'incendie. Deuxièmement, il visait à s'assurer que les moyens d'extinction les plus usuels, utilisés par les sapeurs-pompiers, le moyen d'extinction le plus usuel étant ce que vous avez tous vu, ce qu'on appelle la lance à jet diffusé. Bon. Donc ces moyens d'extinction les plus usuels et actuellement utilisés par les sapeurs-pompiers sur des feux de véhicules thermiques n'engendrent pas d'effets non désirés. Alors un simple exemple, ce n'est pas un aréopage de scientifique que je vais apprendre que le lithium est un métal connu pour réagir violemment en contact de l'eau. Bien, ça a été une des questions que nous nous sommes notamment posées. Donc l'essai d'extinction, les essais que nous réalisons, doivent permettre de vérifier si oui ou non il y a réaction d'incompatibilité. Je le répète, non pas en soi, si j'ose dire, non pas par essence, mais plutôt en ce qui concerne, de manière très pragmatique, l'intervention des sapeurs-pompiers. J'y reviendrai tout à l'heure. Troisième objectif de ce protocole, il visait à mesurer par des essais spécifiques la toxicité des fumées, d'incendie, d'éléments de batterie, de packs batterie et de véhicules entiers. Donc ce sont des essais modulaires. Ceci afin de voir si la toxicité est influencée par le conditionnement des éléments de batterie ou par son intégration dans le véhicule. Donc pour ce faire, comme je vous l'ai dit, nous avons, après plusieurs discussions, abouti à un cahier des charges expérimental. Ce cahier des charges, nous le considérons comme un protocole expérimental. Nous n'avons, enfin, aucun participant au groupe de travail n'a eu la prétention de penser résoudre évidemment tous les problèmes ou toutes les questions posées par la toxicité des fumées produites par des batteries de véhicules électriques ou par des véhicules électriques. Le principe pour la sécurité civile et pour l'administration en général, mais je vais rester dans le cadre de mon ministère, le ministère de l'Intérieur, est la suivante. À partir du moment où il n'y a pas de différence fondamentale d'intervention pour les services de secours sur des véhicules électriques par rapport à des véhicules thermiques, il n'y a pas lieu de modifier la réglementation en vigueur. Voilà. Ça, c'est quelque chose que nous, auquel nous tenons, que nous répétons depuis le début dans le cadre de ce groupe de travail, qui, évidemment, présenté comme ça, est sans doute restrictif, ou paraît restrictif pour beaucoup, mais nous sommes à la Direction générale de la Sécurité civile, et nous ne sommes pas dans des labos scientifiques ou autres qui participent évidemment à la recherche sur les batteries de véhicules électriques, mais nous, notre principe, notre fil rouge depuis le début, c'est de savoir s'il y a des dangers tout à fait spécifiques et particuliers, aussi bien pour les intervenants du secours que pour les populations, et particulièrement, je le répète, pour les milieux confinés. Voilà. Le groupe de travail, après réalisation de ce protocole expérimental, donc c'est l'INERIS qui a été chargé d'effectuer les tests pour le compte des constructeurs, pour le compte de deux constructeurs. Un autre bureau d'études a été choisi par le troisième constructeur. Certains de ces tests ont déjà été réalisés. Il fallait réaliser tout d'abord des tests d'extinction et des tests de combustion sur des packs batteries. Et deuxième phase, des tests de combustion sur des véhicules entiers. Donc, les tests de packs batterie sont achevés. Les tests de véhicules entiers ont commencé pour certains constructeurs et seront normalement bouclés, achevés avant la fin, avant le début décembre 2011. Alors, le principe de ces tests et les résultats de ces tests, évidemment, est assez frustrant. Là encore, pour pas mal de participants au groupe de travail, puisque lorsque nous avons élaboré ce cahier des charges, et même auparavant, à partir du moment où nous avons créé ce groupe de travail, nous avons vite vu dans les services ministériels qu'il était absolument impératif de respecter cinq principes d'action qui sont les suivants. D'abord, principe de dialogue. Si nous avons créé ce groupe de travail pour élaborer à terme ce protocole expérimental, c'est bien qu'il n'était pas question de faire de la législation, comme on appelle traditionnellement, top-down, en bon français, c'est-à-dire de la législation qui est élaborée par quelques énarques distingués, comme on a l'habitude de les appeler, donc par quelques camarades de promo, et dont je connais parfaitement les défauts et je connais parfaitement les miens aussi, et qui seraient brusquement laissés comme ça, sur le bureau du ministre, assigné dans le cadre d'un décret ou d'un arrêté pour lequel personne n'aurait consulté personne, ou vraiment, à minima, on ne consulte généralement que les personnes dont on sait qu'elles sont d'accord avec vous, préalablement. Bon. Donc, le principe, c'est évidemment avant tout le dialogue, et le dialogue avec un maximum de personnes, de scientifiques, de responsables, de constructeurs intéressés. Deuxièmement, une volonté à l'intérieur de ce groupe de travail de transparence. Il n'y a pas de retenue d'informations dans le cadre de ce groupe de travail pour les participants. Il n'y a de retenue d'informations que en se fondant, enfin celles qui sont nécessitées, par le troisième principe qui est celui de la confidentialité. Il est bien évident que nous touchons là à des questions d'intelligence économique, de confidentialité pour les constructeurs, et depuis le début, nous nous sommes engagés à travailler, certes dans le cadre d'un groupe de travail élargi, mais avec, en ce qui concerne le travail, si j'ose dire, de terrain, sur les résultats que pourraient nous donner les études, avec un tout petit nombre de personnes qui sont engagées à la confidentialité la plus absolue. C'est la raison pour laquelle il n'y a guère que l'INERIS, et donc le deuxième bureau d'études qui travaille pour le troisième constructeur, les services ministériels, et donc évidemment les constructeurs, qui connaissent les résultats de ces tests. Alors vous me direz, à quoi cela va-t-il servir ? Eh bien, cela va servir à deux choses. D'abord, comme il faut quand même de temps en temps faire confiance à l'administration, elle ne fait pas que des bêtises, l'administration dispose elle-même d'experts de haut niveau, donc qui eux-mêmes vont réfléchir et traiter ces et en tirer des conclusions à partir de ces résultats. Et bien entendu, systématiquement, dans les groupes de travail, lorsque nous avons des réunions avec les constructeurs et que nous demandons aux constructeurs, nous demandons aux constructeurs quels sont les éléments que nous pouvons partager déjà avec les autres membres du groupe de travail, et puis éventuellement que nous pourrions partager avec l'extérieur, le grand public, les spécialistes, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est le système véritablement en cercle concentrique de la confidentialité. Troisième principe, la scientificité. Il est bien évident que c'est ce qui a guidé avant tout l'élaboration du protocole expérimental, réalisé sous l'œil vigilant de scientifiques reconnus et avec la participation dans le groupe de travail de scientifiques de haute volée, que je remercie d'ailleurs de participer aussi bien dans les groupes de travail du ministère de l'Intérieur que de l'écologie. Et enfin, cinquième principe, la neutralité. Dans cette affaire, l'État ne roule pour personne, puisqu'on a de temps en temps le coutume d'oublier qu'il y a encore des gens au sein de l'État qui travaillent pour l'intérêt général. Voilà. Donc, étant donné que j'en fais partie, ainsi que plusieurs de mes collègues, nous travaillons simplement à savoir quels sont les véritables risques, enfin les risques en tout cas avérés, à partir de protocoles scientifiques dûment vérifiés pour la population et pour les intervenants du secours. Ceci, c'était le premier groupe. Le deuxième groupe, donc toujours ministère de l'Intérieur, mais relevant d'un autre bureau que le mien, qui est un bureau des sapeurs-pompiers et de l'action du secours, il s'est attaché, lui, à réfléchir globalement à la sécurité des intervenants du secours, comme je vous en parlais. Il s'agit de vérifier, en fait, la nature des risques présents dans différentes configurations classiques pour les secours. Alors, classique entre guillemets, mais enfin, ça signifie quoi, des configurations classiques ? Ça signifie, premièrement, accident de la voie publique impliquant un véhicule électrique. Je rappelle aujourd'hui que les sapeurs-pompiers interviennent à quasiment 80%, non pas sur des incendies, mais sur ce qu'on appelle du secours à personne. Et donc, les 20% restants, pour simplifier, pour schématiser, incendie d'un véhicule électrique en milieu ouvert ou fermé, et on rejoint ce que je vous présentais tout au départ. Alors, vous me direz, qu'est-il venu faire aujourd'hui s'il ne peut pas nous donner des renseignements ou des informations scientifiques fiables ? Je tenais à présenter la démarche de la sécurité civile d'abord parce que, premièrement, Elle est souvent présentée, d'ailleurs de l'État en général, hein, parce que c'est plutôt le ministère de l'écologie qui est cité, en raison de l'étude de l'INERIS, dans différents grands journaux. C'est souvent présenté sous l'aspect polémique. Il est bien évident que nous, dans les groupes de travail, les principes que je vous ai énumérés, les cinq principes que je vous ai énumérés, et la démarche la plus scientifique possible, font que nous faisons un devoir de nous abstraire de toute configuration ou de tout esprit polémique dans cette affaire. Bien. Chacun, évidemment, est libre de réagir ou raconter ce qu'il souhaite dans les journaux. Le principe est que depuis le début de l'année, et nous n'en sommes pas peu fiers, nous avons réussi à tenir au sein de l'État une ligne de conduite qui est celle, je répète, conduite par la scientificité, la neutralité dans cette affaire et la nécessité d'avoir, non pas des certitudes, mais en tout cas de lever des doutes. Voilà. Et comme vous le savez, l'un des grands problèmes de l'État et principalement de la Direction générale de la sécurité civile, c'est de connaître quel est le risque acceptable. Le risque acceptable, je vous l'ai donné tout à l'heure, je le répète, à partir du moment où il n'y a aucune différence fondamentale, spécifique, dans l'action des intervenants du secours sur un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique, il n'y a aucune raison, pour nous, de modifier la réglementation, sinon à la marge. C'est la raison pour laquelle, corréla de ce principe, il n'y a jamais eu de décision prise en ce qui concerne le cas le plus délicat, qui est celui d'un incendie en milieu confiné, et principalement parking souterrain. On a entendu beaucoup de choses, hein, notamment qu'il n'y aurait pas de parking des véhicules électriques dans un espace dédié, qu'on favoriserait plutôt un parking des véhicules sur l'ensemble du plateau souterrain, que les véhicules devraient être écartés, distancés d'une certaine mesure, enfin un mètre, deux mètres, tout ça. Bon, disons qu'on a un peu tout entendu. Nous sommes malheureusement, évidemment, c'est traditionnel, lorsque des hypothèses de travail ont été émises par les services ministériels dans des notes à destination du cabinet du ministre, il est tout naturel qu'elles fuitent, c'est une tradition. Le principe est, je le répète, qu'en ce qui concerne en tout cas la Direction générale de la sécurité civile, je laisserai mes collègues de l'écologie vous répondre peut-être dans un autre lieu, mais je pense qu'on est parfaitement en phase là-dessus, aucune décision n'est prise, puisque je vous le répète, si à partir du moment où nous pouvons ne pas modifier la réglementation, contrairement à ce que certains peuvent penser, nous serons très très heureux, notre plaisir n'étant pas de produire des arrêtés et des décrets à longueur de journée, nous avons autre chose à faire. Voilà. C'est la raison pour laquelle, pour conclure, je voudrais conclure sur un calendrier. Donc, je vous l'ai dit, normalement, l'INERIS et le deuxième bureau d'études devraient avoir rendu quasiment tous leurs conclusions sur non seulement les packs de batteries et également les véhicules entiers début décembre. Évidemment, nous recevons au fur et à mesure tous les rapports intermédiaires, voire définitifs pour certains constructeurs qu'on nous envoie. Nous en discutons. Nous sommes en phase active, je ne peux pas vous donner de résultats, puisque là encore, je vous le répète, nous avons un engagement de confidentialité pour l'instant, mais en tout cas, je ne peux que me féliciter que depuis le début de l'année, ce groupe de travail est avec principalement les constructeurs, mais également tous les services et les scientifiques concernés, particulièrement bien fonctionné, parce que le principe, une fois de plus, c'est le respect des grands principes qui gouvernent l'État, à savoir avant toute chose la neutralité et l'intérêt général. Voilà, merci beaucoup.